Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yanis Bacha, membre de Renaissance, ancien candidat aux élections législatives à Paris. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors Yanis Bacha, mercredi soir, le président Macron a accordé une interview à France 2 pour la deuxième fois en deux semaines. Il a notamment répondu à des questions sur le pouvoir d'achat et l'inflation, notamment la hausse des prix de l'énergie. Êtes-vous rassuré par le cap tracé par le président de la République ?
Alors oui, parce que le président de la République a rappelé de manière ferme l'engagement rapide et massif du gouvernement pour protéger tous ceux qui font vivre notre société, que ce soit les ménages, les entreprises, les collectivités. Et ces mesures-là, en fait, arrivent à pic à un moment où, malheureusement, on est dans un espèce de brouhaha, dans un espèce de bruit politique où les égos commencent à primer sur les intérêts réels des Français. Et je trouve que le gouvernement a réussi, du moins est en train de réussir, à répondre à ces attentes qui sont immenses.
Alors vous faites allusion à la France insoumise, on va en parler tout à l'heure, Yanis Bacha. Emmanuel Macron a annoncé que l'État allait garantir un prix raisonnable de l'électricité aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises. Un guichet d'aide incluant des acomptes va être mis en place également pour les entreprises de taille intermédiaire et pour les grands groupes. On sait que les défaillances d'entreprises devraient exploser l'an prochain. Ces aides peuvent permettre de limiter les faillites ?
Bah oui, parce que aujourd'hui, juste, on rappelle de quoi on parle, hein, c'est que pour les ménages et les très petites entreprises, pour les très petites communes, la poursuite du bouclier tarifaire, vous savez, dès 2023, afin de limiter de 15% la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Pour les PME, c'est également la mise en place d'un amortisseur du prix de l'électricité pour garantir un prix raisonnable et permettre que les entreprises qui sont en train aujourd'hui de galérer encore n'est pas justement le couteau sous la gorge pour une plus longue période, mais puisse quand même entrevoir l'avenir de manière plus sereine. Et enfin, pour les ETI, hein, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, c'est la mise en place de ce fameux guichet d'aide avec des acomptes et des critères simplifiés pour anticiper la montée des coûts d'énergie qui est malheureusement en train de monter, hein, évidemment, hein, avec cette hausse de 15%. Mais en fait, avec ces actions fermes, d'ailleurs, on est les plus conséquents en Europe quand même, c'est que la France aujourd'hui est le pays qui s'en sort le mieux dans cette crise énergétique. Les Français sont mieux protégés que nos voisins européens. Clairement, l'inflation a été contenue et on est aujourd'hui vraiment sur la plus basse des pays de l'Union européenne. Voilà. Après, sur l'augmentation des tarifs de l'énergie qui fait peur à tout le monde, hein, moi y compris, le gouvernement est mobilisé de manière totale, vraiment, pour apporter une solution aux Français, en européen, parce que cette solution, elle s'entrevoit à travers l'Europe et pas seulement en se refermant sur nous-mêmes en étant franco-français. Et Emmanuel Macron, je sais l'intérêt qu'il a et l'importance qu'il porte sur cette limitation des prix.
Yanis Bacha, la Fondation Abbé Pierre a annoncé que le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire a augmenté avec cette inflation. Comment peuvent s'en sortir les personnes qui ont les plus faibles revenus ? Emmanuel Macron a notamment cité des étudiants mercredi soir.
Oui, des étudiants qui étaient, on se rappelle, hein, les plus en difficulté pendant la crise. Hein. On se rappelle des menus à 1 euro notamment, qui avaient permis aux étudiants d'entrevoir l'avenir de manière un peu plus sereine pendant le confinement. Parce qu'il n'y avait plus de job étudiant, forcément, comme les restaurants étaient fermés et autres. Voilà, encore une fois, je trouve que Emmanuel Macron, avec le gouvernement, avec cette problématique justement d'aider à limiter l'inflation, à essayer de les raccrocher vers justement ce cap, on arrive quand même à mieux faire en sorte que les Français soient protégés aussi face à cette hausse de l'inflation. Et évidemment, la Fondation Abbé Pierre, mais reste du coffre, on travaille formidable sur le terrain. Et je pense qu'il faut le dire, il faut évidemment jamais l'oublier. Toutes ces mesures-là pour limiter l'inflation montrent, encore une fois, notre modèle social montre qu'aujourd'hui, l'État est derrière les Français. Les Français qui font vivre notre pays, hein, à travers leur entreprise, en faisant des profits, mais évidemment, et aussi avec une attention particulière à ceux qui galèrent au quotidien et on pense évidemment à eux.
Alors Yanis Bacha, vous avez fait allusion tout à l'heure à la bataille des égaux, notamment à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a vivement critiqué le vote de la motion de censure de la France insoumise avec les voix du Rassemblement national. Qu'avez-vous pensé de cet épisode qui a marqué la semaine parlementaire?
Écoutez, moi si j'étais un électeur du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts, ce serait bien triste. Ce serait bien triste de savoir que, pour la première fois depuis très longtemps, on parlait de convergence des extrêmes depuis de nombreuses années. Et bien là, on l'a vu cette semaine à l'Assemblée nationale, cette convergence des extrêmes, cette convergence des luttes qui a conduit quand même un parti d'extrême gauche qui s'est dit proche des minorités, pacté avec une sorte de parti néo-fasciste qui est en train de repointer doucement le bout de son nez en France avec le Rassemblement national. Et c'est pas, moi je viens de la gauche, vous savez, et ce que j'ai vu cette semaine, c'est pas ma gauche. C'est pas cette gauche qui t'acquive avec le Rassemblement national. C'est pas cette gauche qui enlève les références à l'immigration qui font vivre aujourd'hui notre pays dans une motion de censure pour plaire à l'extrême droite. J'ai trouvé ça terrible, et surtout la parole de Jean-Luc Mélenchon qui disait qu'il manquait qu'une cinquantaine de députés pour faire tomber le gouvernement. Mais on est où en fait? Cette élection, la France insoumise et la gauche l'a perdue. Aujourd'hui, ils ont une opposition à l'Assemblée nationale, une opposition qui fait son travail tant bien que mal. Et je sais que dans les rangs de la gauche, il y a des députés profondément républicains qui font leur job et qui travaillent, évidemment, pas, ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement, mais qui travaillent en bonne intelligence pour imposer leurs opinions. Et on l'a vu d'ailleurs, l'amendement de Caroline Fiat, notamment sur la revitalisation des personnels dans les déserts médicaux. On a vu qu'on pouvait accepter et qu'on pouvait aider aussi quand une idée, elle n'est pas de gauche, elle n'est pas de droite. Qui est une bonne idée. Et j'aimerais bien qu'on se calme un peu, voilà, qu'on se détende, et qu'on essaye de faire avancer le pays, parce que l'important, quand même, dans tout ça, c'est quand même les Français, quoi.
Mercredi soir, Emmanuel Macron a évoqué la future loi sur l'immigration. Le chef de l'État veut notamment simplifier les procédures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière, un sujet qui a été ravivé par le meurtre de la petite Lola. Vous souhaitez que la majorité à laquelle vous appartenez soit plus ferme sur cette question?
Je pense que c'est un débat qui doit être mené en profondeur pour réformer nos règles et nos lois. Et ça va être fait dès 2023. Voilà. Je pense que le plus important, c'est de préserver la cohésion nationale et le pacte social qui nous unit, clairement. Aujourd'hui, vous savez, sur le plan diplomatique, c'est un échange, c'est donnant-donnant. Et il faut certes accélérer peut-être sur l'expulsion des délinquants étrangers qui aujourd'hui, malheureusement, sont perdus dans notre territoire et sèment. Le chaos, évidemment, pas tous. Hein, je ne suis pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bons, de mauvais étrangers. Je vous souris, d'ailleurs, le discours ambiant qui est en train de monter. Je ne pense pas que ce soit le bon. Néanmoins, aujourd'hui, sur les délinquants étrangers, il faut être intraitable. Il faut être intraitable et essayer de trouver une solution ensemble, aussi là-dessus. Voilà. Après, le meurtre de la petite Lola, évidemment, je suis particulièrement touché parce qu'il s'est déroulé dans ma circonscription et... La petite Lola, c'est une petite... On croise tous les jours des jeunes filles, des jeunes Lola, dans la rue, et on se dit, mince, ça aurait pu être elle. Et on est forcément touché à l'âge où on peut être parent. Après, cette réponse-là, encore une fois, elle est en européen. C'est en européen avec une politique commune qu'on peut parvenir à maîtriser, à régulariser les flux migratoires. Voilà. Mais il faut, je trouve, encore une fois, alléger les procédures judiciaires et les simplifier, qui permettent de lutter contre la délinquance. Et c'est pourquoi le président a annoncé qu'il voulait faire un chantier, un grand chantier de réforme et de refonte du code des procédures pénales en associant les parlementaires de tous bords, parce qu'encore une fois, les idées peuvent venir de partout, pour essayer justement de parvenir à une solution sur cette question-là.
Yanis Bacha, la France a réduit l'octroi des visas aux ressortissants du Maghreb pour obliger le Maroc, la Tunisie et l'Algérie à accepter sur leur sol les personnes qui ont été expulsées. C'est une mesure qui peut être tout de même perçue comme injuste par des citoyens qui veulent simplement rendre visite à leur famille en France.
Oui, j'en suis victime. J'en ai été témoin moi-même aussi avec ma famille. Néanmoins, aujourd'hui, ce que je lui dis tout à l'heure, c'est du donnant-donnant. À partir du moment où il n'y a pas d'échange diplomatique et où, justement, les visas ont été réduits, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué aussi pour la France de vouloir accorder ces visas. Après, je pense que cette mesure n'arrange personne, hein, ni la France, ni les pays du Maghreb, avec qui on a de très bonnes relations, de par l'histoire, mais aussi aujourd'hui de l'actualité. Et, on l'a vu, hein, la double visite d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne en Algérie, visite historique. La première ministre et un président de la République qui se déplace en Algérie, justement, pour rappeler l'affection et les bons liens qu'on peut avoir entre la France et l'Algérie, et le Maghreb en règle générale. Voilà, je pense que tout le monde doit mettre un peu d'eau dans son soda, dans tout ça, et essayer de trouver une solution, parce que les premières victimes, c'est quand même les ressortissants maghrébins et ceux qui sont français d'origine maghrébine.
Yanis Bacha, Elisabeth Borne a installé le Conseil national de la refondation pour le climat. Plusieurs milliards d'euros seront investis dans la rénovation thermique des bâtiments, dans le plan vélo, dans l'hydrogène. Vous avez le sentiment que le gouvernement a pris aujourd'hui la mesure de la crise climatique ?
Le gouvernement l'avait déjà pris à l'époque, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'était compliqué. On le voit aujourd'hui, c'est très difficile de dire que on ne voit pas cette crise climatique qui est en train de nous pendre au nez. Voilà, après, Elisabeth Borne a rappelé avec ce Conseil national de la refondation qu'elle veut agir fortement et radicalement pour parvenir à limiter le réchauffement climatique avec ce fameux Green Deal européen. Parce qu'encore une fois, cette solution doit se voir à partir de l'Union européenne, en européen. Voilà. Et même si Emmanuel Macron a annoncé vendredi la sortie de Paris du traité de la charte de l'énergie, voilà, aujourd'hui il fait plus de 20 degrés pour un mois d'octobre, c'est terrible, ça nous pousse vraiment à nous questionner sur notre temps, et ce mandat sera écologique, ou ne le sera pas. Mais je pense qu'il faut quand même parvenir réellement à prendre cette question-là à bras-le-corps. Je pense qu'une sobriété de la part de tous, que ce soit des grands groupes, jusqu'aux Français qui œuvrent tous les jours à faire vivre ce pays. On a tous une part de responsabilité là-dedans. Cette solution-là, de limitation de l'utilisation de l'énergie et de préserver notre planète pour nos générations futures, c'était une question d'idéologie il y a quelque temps. Et en fait, on se rend compte que ça devient une question de survie et qu'on n'a plus vraiment une minute à perdre.
Alors, il y a un sujet qui monte en France, Yanis Bacha, ce sont les fameuses zones à faible émission. Vous qui êtes parisien, il y aura des sanctions automatisées contre les véhicules polluants fin 2024. Mais changer de voiture coûte cher, les métropoles vont-elles être interdites de facto aux Français qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule propre ?
Alors, Clément Beaune a annoncé quand même un crédit qui permettrait aux personnes qui ont des véhicules de pouvoir les changer à moindre coût, hein, avec un prêt, jusqu'à la hausse du bonus écologique, comme vous le savez. Il y a les surprimes de 1 000 et 2 000 euros, et l'expérimentation du prêt à taux zéro pour financer le reste à charge sur l'achat d'un véhicule propre. Je sais que l'État regarde pour envisager des prêts pour les foyers modestes notamment. Je vous ai dit, encore une fois, ça devient obligatoire, ça devient plus que nécessaire. Évidemment que changer de véhicule coûte cher. Évidemment que c'est problématique. Mais ça devient une urgence réellement. Et je pense que il faut que tout le monde fasse des efforts là-dessus. Tout le monde. Malheureusement, ça passe aussi par une sorte de contrainte, en quelque sorte, avec ces amendes-là. Mais il reste quand même 2 ans à ces personnes pour changer de véhicule. Et on l'a vu, hein, notamment lors du salon de l'automobile, qui s'est terminé à Paris. Plus beaucoup de voitures thermiques, hein, beaucoup de voitures non polluantes qui commencent à être exposées. Ça devient une nécessité. Ça devient quasiment obligatoire. Et en fait, on n'a plus trop le choix, quoi. On n'a plus trop le choix.
Yanis Bacha, la région des Pays de Loire annonce 20 nouvelles mesures en faveur des personnes en situation de handicap, dont la gratuité des transports sur le réseau Aléop pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap. De manière générale, qu'attendez-vous du gouvernement et des collectivités locales pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap ?
Oui, écoutez, c'est une très bonne chose. Christelle Morancet, la présidente de la région Pays de la Loire, j'ai accueilli ces mesures avec beaucoup de joie. Évidemment, Mathieu Henrault, qui est très investi, qui est en situation de suicide, qui est élu à Saint-Herblain, dans les Pays de la Loire, qui s'est beaucoup investi dans ces mesures-là. De manière générale, qu'est-ce qu'on attend? Écoutez, je faisais l'exemple, ce qu'on veut, c'est, enfin, ce qu'on attend, étant même en situation de handicap, c'est cette société inclusive qu'on attend et qu'on espère de nos voeux. Évidemment que la gratuité, c'est très bien, mais comment en fait on peut simplifier ces mesures d'accessibilité? C'est important de les simplifier. Les mesures d'accessibilité qui sont aujourd'hui, je trouve, peut-être un peu trop contraignantes par rapport aux réelles attentes des personnes en situation de handicap. Ça peut être la possibilité pour tous les commerces qui le souhaitent d'avoir des rampes gratuites pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de rentrer dans les magasins ou d'avoir des bandes podotactiles pour les personnes en situation de cécité, un éclairage réduit pour les personnes avec un trouble du spectre autistique. C'est des mesures toutes simples comme ça qui peuvent en fait réellement améliorer la vie des personnes en situation de handicap, mais surtout, voilà, je pense que c'est de la simplicité et de l'efficacité qu'attendent aujourd'hui les personnes en situation de handicap.
La RATP a un nouveau président en la personne de Jean Castex. Il va falloir qu'il lance des travaux dans le métro pour aider les personnes à mobilité réduite à circuler dans le métro.
Oui, vous le dites très bien. Après, vous savez, c'est une question que j'ai suivie très près dans le précédent mandat. Le métro ne pourra pas être entièrement adapté parce que le métro est très vétuste, les infrastructures sont très vieilles et ça demanderait énormément d'argent, énormément de temps aussi. Les fermetures de stations, ça me semble compliqué de rendre le métro aujourd'hui entièrement accessible et je le regrette du plus profond de mon âme. Mais il y a des parcours qui peuvent être simplifiés. Il y a encore une fois 3000 taxis qui vont être 3000 taxis PMR qui vont être validés, attribués d'ici 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après, la question est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on retiendra des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'espère qu'il y aura un plan d'accessibilité quand même du métro. Peut-être éventuellement voir des stations où il y a des correspondances, des grosses stations qui pourraient être accessibles. Ça pourrait être un plan intéressant. Et j'en ai parlé avec Clément Beaune, ministre délégué au transport. Voilà, c'est toutes les questions auxquelles il faut réfléchir, mais auxquelles il faut réfléchir vite, parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est demain. Après, quand même, je vous le dis, il y a quand même le bus qui est adapté à Paris, il y a le métro, comme on l'a dit, 4 ans, qui va bientôt aller de l'aéroport d'Orly jusqu'à Carrefour Pléyel et au village olympique. Il y a le RER B, le RER A, qui desservent quand même une bonne partie de Paris d'est en ouest et de nord au sud. Donc voilà, c'est quand même, on ne part pas d'une feuille blanche à Paris sur l'accessibilité.
Merci Yanis Bacha. Je rappelle que vous êtes membre de Renaissance et ancien candidat aux élections législatives à Paris. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.